Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
11h05 de retour dans les grandes gueules du sport. Votre rendez-vous le samedi et le dimanche de 9h à midi. Merci de nous écouter toujours aussi nombreux dans cette émission. Vous nous écoutez en direct mais également en podcast où nous faisons un carton. On va battre un nouveau record au mois de mars. Je ne vous dis pas encore le chiffre mais vraiment bravo, on a dépassé une barre symbolique. Donc merci à tous de nous écouter même en différé. Qu'est-ce qu'il y a Christophe qui marmonne? Là je t'entends marmonner là, proche du micro là. Qu'est-ce qu'il y a?
Le million non, quand même pas.
Pas encore le million au niveau des podcasts, mais on s'en rapproche, doucement mon cher Christophe. Alors ce matin évidemment Christophe Cessieux, Fred Weiss, Fred Le Canu, David Douillet et Roland Courbis nous rejoint pour parler de l'OM. Salut Roland.
Salut et bonjour à tous.
Bon tu vois il y a du lourd ce matin, il y a des judokas, il y a un rugbyman qui fait 4 mètres, il y a
Christophe Cessieux. Ça un rugbyman, c'est même pas ce que c'est un ballon ovale.
Ouais, non, moi j'attends un ballon rond.
Oui mais depuis qu'il parle de rugby, j'ai
le seul qui rendait le ballon ovale. Il croit que c'est le tournoi des trois nations, il a oublié qu'il y avait
le seul basketteur qui rendait le ballon ovale, tu sais.
On pourrait raisonner en plus de 100 kilos et Roland, t'en es où toi à ce niveau?
T'as Roland, combien de kilos?
Attends, il est sur la balance, David, il vérifie.
Et il a un problème avec le casque, Roland. Non, David te demandait, je fais la traduction. Ouais, David te demandait au niveau David des déjà. 100 kilos, t'en étais où?
Hein?
Est-ce que tu étais proche des 100 kilos ou pas encore?
Une courte page de pub.
Je m'en rappelle plus.
Ok. Il ne veut pas donner son poids. C'est tout à ton honneur. On parle de Marseille dans quelques instants. À 11h30, les GG remontent le temps avec Christophe Cessieux. 5 avril 1992. Il y a 33 ans, la dernière victoire française sur le Tour des Flandres. Elle était signée Jackie Durand. 11h45, le débat caché, évidemment. Mais tout de suite, je parlais du Tour des Flandres. On va retrouver Kevin Morand, notre envoyé spécial. Salut Kevin. Comment ça se passe pour les coureurs?
Eh bien ça y est, il y a 8 coureurs qui sont partis en tête pour l'échappée matinale. Ils ont 36 secondes d'avance sur le peloton et un coureur en contre-attaque. Parmi ces 8 coureurs, il y a notamment Connor Swift, Alessandro Romelé, Victor Vercouli. Il y a eu beaucoup de tentatives d'attaque, notamment des équipes belges invitées. Mais ça y est, donc l'échappée matinale semble s'être formée. 40 secondes d'avance pour eux sur le peloton à 230 km de l'arrivée.
À tout à l'heure, merci beaucoup Kevin pour ces précisions. Marcel Pagnol a dit un jour, on appelle les comédiens des cabots parce qu'ils se sont quand on les siffle.
RMC, les grandes gueules du sport passent la seconde.
Coup de sifflet, voilà qui est fait, terminé. Ici, au Vélodrome, qui va certainement gronder, qui va siffler également après cette défaite de l'Olympique de Marseille face au Paris Saint-Germain. Paris s'impose encore une fois ici au Vélodrome.
C'est inadmissible. Je viens souvent au Vélodrome et c'est tout le temps les mêmes prestations. Ils gagnent jamais les matchs importants comme ça.
Ça va être terminé. Défaite de l'Olympique de Marseille ici au Vélodrome. Les sifflets et la frustration des tribunes à Marseille.
Vous savez, à Marseille, il y a toujours de la pression. Nous avons une grande responsabilité de tout donner pour ce club. Donc je ne pense pas que la pression affectera vraiment quelqu'un plus que d'habitude.
Ça devient presque habituel après le 3-0 et la claque subie contre le Paris Saint-Germain.
La solidarité maudite.
Allumez le feu au Vélodrome ce soir. 3 défaites de suite, 4 défaites en 5 matchs. L'OM est en crise de résultats et depuis cette semaine, c'est la crise tout court hein, avec le management musclé de Roberto De Zerbi qui a irrité le vestiaire marseillais. On en parlait hier, des pics, des vexations qui ont agacé les joueurs. Les résultats ont excédé les supporters qui s'attendaient, c'est vrai, et nous aussi, à une fin saison beaucoup plus tranquille. L'OM n'est plus deuxième et ce soir au Vélodrome, la tension sera extrême. La musique qui fout les jetons. Et cette question, le Vélodrome va-t-il se retourner contre ses joueurs? Oui ou non, Christophe Cessieux?
Bah ça dépend de ce que les joueurs vont produire sur le terrain. Okay. Tout dépend de ça.
Ça dépend, ça dépasse.
Bah oui,
Fred Le Canu.
Pas encore.
Pas encore. David Douillet.
Ouais, je pense que c'est possible, ouais.
Fred Weiss.
Non.
Roland Courbis.
Non, je l'espère en plus.
Ok, non, et tu l'espères. On va écouter Roberto De Zerbi en conférence de presse. Justement, il a été questionné sur l'ambiance chaude au Vélodrome et donc ce soir pour ce retour des Marseillais après le non-match face à Reims la semaine dernière.
J'ai été moi-même supporter, donc je sais ce que ça signifie. Peu importe la colère qu'auront les supporters dimanche, nous devons aller sur le terrain avec un état d'esprit de diable, de furie. Si nous faisons ça, tout le Vélodrome poussera les joueurs.
Per i giocatori.
Giocatori.
Pourquoi non, Fred Weiss?
Parce qu'il y a encore des choses à jouer, parce que je pense que le peuple marseillais est un peuple qui connaît le foot, qui sait que justement il y a des choses à jouer, qu'il ne faut pas
trop se retourner contre les joueurs. Alors mettre la pression, oui, c'est normal, c'est leur job et ils doivent être là pour encourager et mettre un peu de pression. Mais se retourner serait ridicule alors que ils ont encore en ligne de mire cette Ligue des Champions. Je pense qu'ils sont conscients des réalités et Roland, peut-être tu pourras me dire, McCourt vient. Est-ce que ça peut aider ça aussi à stabiliser un petit peu tout ce qui se passe ou au contraire il va être la cible de siffler et il va mettre encore plus de pression.
Si tu veux, je pense qu'il y a une certaine logique et j'ai l'impression que du côté de Marseille, cette logique, elle existe pas trop. Le principal responsable, j'ai pas dit le seul, hein, le principal responsable de ce qui se passe en bien, en moitié bien ou en pas bien, c'est McCourt. Je donne un exemple. Si par exemple aujourd'hui Pablo Longoria, avec beaucoup de qualité dans beaucoup de secteurs, se retrouve président, directeur sportif, recruteur et tout, c'est pas lui qui s'est donné toutes ces fonctions, c'est McCourt. Donc il faut un petit peu regarder les choses à l'endroit, si je peux me permettre. Et en ce qui concerne le point d'interrogation sur le stade Vélodrome aujourd'hui, mais s'il y a une anomalie dans la saison de l'OM, elle est au stade Vélodrome depuis le début. C'est rare de voir une équipe meilleure pratiquement deux fois plus à l'extérieur qu'au stade Vélodrome. Et là où je suis surpris qu'il puisse y avoir des fois, bon allez, des conneries, on en fait tous. Des fois, allez, on dépasse un petit peu et on fait des excès dans la façon de se prononcer. Mais si par exemple il y a un problème, le problème, il a pas été à Reims. Reims, c'est tout simplement un match piège, comme il y en a d'état et d'état, après une coupure internationale de 15 jours. Le match à Reims, on l'a vu, ben, j'ai vu un OM très moyen. J'ai vu aussi un poste qu'on parle pas trop et qu'on parle pas assez. Et pourtant, hier, on a pu le voir du côté de Monaco, dans un Monaco-Brest. C'est le poste de gardien de but. Le meilleur joueur de l'OM, que ce soit à domicile ou que ce soit à l'extérieur, depuis le début de la saison, c'est Rulli. Et Rulli, à Reims, ben, il a été moyen, voire même très moyen. Mais derrière ça, tu essaies de réfléchir tranquillement. Et je pense qu'il y a eu pas mal d'exagérations sur ce qui s'est passé, autant dans les comportements que dans les déclarations depuis le match de Reims. Pour moi, on a dépassé les limites.
Ok, bah justement, on parlera et on reviendra sur cette semaine particulière où Roberto De Zerbi a piqué ses joueurs, il a managé sur l'émotion, les joueurs ne l'ont pas très très bien accueilli. On en parlait déjà hier. Fred Le Canut.
Non, moi je pense qu'il faut laisser encore l'espoir d'une belle fin de saison. Il reste 7 matchs, il y a Toulouse ce soir, il reste des grands rendez-vous aussi, il reste Monaco, Montpellier, Brest, Lille.
Tu peux repasser deuxième là.
Déjà. Et ça veut dire qu'à la fin de l'histoire, on peut exactement finir deuxième du classement, on peut être qualifié, enfin quand je dis on, l'OM peut être qualifié pour la Ligue des Champions, donc c'est trop tôt pour être en colère. Là,
c'est trop tôt, mais on sent que ça boue quand même.
Mais c'est le tournant du match.
Mais c'est une cocotte minute, tout le monde est très très chaud à l'OM, mais si ça se passe mal, oui, ça va bouillir.
C'est
mais
trop tôt là.
Ils vont les accompagner.
Là on est sur la crête en fait, c'est maintenant la bascule, et là où je rejoins Fred sur l'analyse, c'est qu'il y a besoin de soutien, il y a besoin peut-être d'un peu de pression, mais en tout cas voilà, c'est la crête, c'est la bascule. Ça va être ce soir la bascule, et puis la suite elle va tout donner. Ouais. C'est l'accès.
Ouais, parce que si tu perds ce match et que tu sors du podium, ce qui est possible aussi, là, ce serait quand même terrible. Parce que là, avec les supporters marseillais, l'OM a joué la tentatrice. Ils ont montré le gâteau. Ils l'ont fait humer aux supporters, le gâteau de la Ligue des Champions, le gâteau de la deuxième place, et pourquoi pas au tout début de la saison, le gâteau du titre. Et puis là, on leur retirait comme ça le gâteau au dernier moment. Et là, tu fais pas ça à Marseille. Ça, c'est pas possible. Les supporters vont devenir dingues. Je pense que, à la différence des précédents où le Vélodrome était en furie, ceux qui seraient les premiers visés aujourd'hui, ce seraient les joueurs, parce que même si les joueurs ont très mal pris ce qu'a dit De Zerbi, en revanche pour les publics, pour les virages, je pense que ce genre de choses a renforcé encore un peu plus le coach de l'OM. Les supporters de l'OM aiment bien qu'on joue un peu au dur, oui, avec les joueurs.
Peut-être que les supporters qui vont nous appeler et qui vont composer le 32-16 n'ont pas forcément apprécié que les joueurs se demandent s'ils allaient s'entraîner ou pas lundi, alors que le coach leur a dit maintenant vous entraînez tout seul.
Voilà, et allez-y les gars.
On va leur demander. David Douillet et ensuite Roland.
Moi je trouve que les supporters de l'OM, il y a énormément d'affect. C'est vraiment des supporters qui vivent leur territoire, qui vivent leur équipe, avec toute cette histoire qui découle d'une Ligue de champions gagnée il y a bien trop longtemps. en tout cas, tout est très fort, très puissant, très, puis avec l'état de l'esprit du sud, hein, de Marseille, où tout prend des proportions assez importantes. Moi, je pense, enfin, j'espère que les supporters ne vont pas trop accabler ceux qu'ils ont devant les yeux, parce que je trouve que, et je suis d'accord avec Roland, que le problème vient de derrière. Le problème, c'est un propriétaire qui n'y connaît rien, qui se repose totalement sur son président, et le président qui fait l'équipe et non pas l'entraîneur. Donc, à un moment donné, faut régler les choses et mettre des gens qui restent à leur place. Et laisser le périmètre aux techniciens, et là je parle de Zerbi, de pouvoir sélectionner une équipe qui pourra driver lui et les emmener au plus haut. Voilà. Donc, et j'espère que les supporters ne vont pas se tromper de cible. Et je pense qu'il y a plus d'opprobre à jeter sur la tête de ce club que sur les acteurs principaux.
Mais on sait qu'il y a peut-être une fracture. D'ailleurs, on verra ce soir s'il y a une fracture. Ça se trouve pas du tout. Et les joueurs sont toujours derrière leur coach, même si on peut en douter. Et je pense que même Roberto De Zerbi, c'est ce qu'il disait en conférence de presse, il peut peut-être en douter de savoir s'il est encore soutenu totalement par ses joueurs.
J'espère que les joueurs le sont, hein, sont concentrés, ils soutiennent le coach. Mais parce que là, devant le public, tu peux pas mentir.
S'il lâche le coach et qu'il lâche
ça, je l'entends depuis des années. Si je peux me permettre, j'y crois pas.
Moi, quand une fracture, parles, peut-être pas lâchée, mais une fracture entre un entraîneur et des joueurs, quand même.
Mais elle va pas arriver maintenant. Si on doit faire le point sur la saison de l'OM, il y a une anomalie depuis le début de la saison. Tu as une équipe qui est nettement meilleure, je dis bien nettement meilleure, à l'extérieur qu'à domicile. Alors qu'à domicile, avec 65 000 personnes, un stade qui a été fait aussi de façon magnifique et qui résonne. Mais tu n'arrives pas à faire de ce stade-là ton 12e homme. Il y a quand même une anomalie quelque part. Et là, je pense aussi qu'il faut revenir à ce qui a été donné comme objectif. L'objectif, c'est de terminer dans les trois premiers pour ne pas passer par les barrages quand tu termines quatrième. Il y a 3-4 semaines de ça, c'était pratiquement acquis. Aujourd'hui, tu es dans le doute. Mais dans le doute, tu ne vas pas, en plus de ça, le créer le doute encore plus. Je te donne un exemple. Si le match de Toulouse, tu le prends et tu le prépares encore plus important que ce qu'il est, mais tu augmentes les chances, et ça sera pas les joueurs qui ont décidé de ne pas battre Toulouse. Tu augmenteras les chances de ne pas perdre contre Toulouse. J'ai tellement vu de choses bizarres dans le football que je me permets de te dire que tu peux très bien terminer dans les trois premiers malgré une défaite ce soir contre Toulouse, et le contraire, tu peux aussi.
Oui, mais tu connais le contexte marseillais, Roland. Tu sais très bien qu'une défaite au Vélodrome ce soir, ça va tendre tout le monde.
Mais les Marseillais, ils sont passionnés, ok, même de façon des fois exagérée, mais c'est pas ce soir qu'ils vont faire des banderoles stupides pour attaquer les joueurs. Le match de ce soir, quand on se discute entre Marseillais et entre chauvins que l'on peut être. Le match de ce soir, c'est ce match doit être très difficile et va être très difficile pour Toulouse. C'est pas tout à fait pareil. C'est cet état d'esprit qu'il faut avoir. Mais si par exemple tu pètes un boulon comme le fait De Zerbi, et là le passionné, bah, il a été un petit peu trop passionné. Bah, c'est pas grave. Il est assez jeune. On progresse à tout âge et progressera lui aussi. Mais c'est un gars passionné qui a pour moi un petit peu le comportement pour réussir dans cette région, mais qui déconne pas non plus.
Ok.
L'argument de Roland.
Si Toulouse marquait en premier, il se passe quoi?
Comment?
Si Toulouse marque en premier,
qu'est-ce qui se passe?
Eh ben, s'ils ont écouté RMC, ils vont applaudir et ils vont encourager l'OM.
Ok. Parce que
l'argument de Roland de dire que, et en tout cas, la démonstration de dire qu'ils sont meilleurs à l'extérieur que chez eux.
Il y a un constat. Hein.
Ça veut dire aussi qu'ils ont du mal à gérer la pression. Donc, à un moment donné, si t'es plus fort en outsider qu'en leader, quand t'es chez toi, t'es leader, tu dois gagner. Quand t'es à l'extérieur, c'est moins grave si tu perds. Donc à partir de ce moment-là, ça les libère. Donc ce soir, pour les supporters, l'enjeu c'est peut-être de pas trop mettre la pression, parce que si tu les mets en surpression, si tu leur mets la pression pour vraiment leur dire tu dois gagner, ça les handicape plus que ça ne les renforce.
C'est un magnifique vœu pieux, mais c'est vachement difficile de dire je leur mets pas la pression du tout.
J'ai écouté cette semaine des podcasts entre supporters marseillais. Ils disaient par le passé, quand on leur a mis la pression, c'est là qu'ils ont réagi. Donc tu vois, je suis pas sûr que les supporters.
Non mais justement, c'est ça le réflexe peut-être, c'est de dire qu'il faut que ça soit dur. De leur mettre la pression, justement pour les mettre jusqu'au bout. Or, peut-être que là, l'idée, comme tu disais, Roland, et cette notion de gagner plus à l'extérieur qu'à l'intérieur, ça me fait penser qu'au contraire, c'est plus un accompagnement qu'une pression qu'ils ont besoin, parce que l'enjeu, il est purement psychologique.
Ce dont ils ont besoin, mais est-ce que les supporters.
Mais tu parles du Vélodrome, hein, quand même.
On sait que c'est le management à l'émotion, c'est lui qui le dit, Roberto De Zerbi, qu'il y a beaucoup de calinothérapie, et puis que parfois, eh ben, ça dérape. Et ça a pu déraper en début de semaine, mais toi, le regard du coach sur ce qu'a pu dire. Des herbiers à ses joueurs, des vexations, des piques, des bombes. Vous voulez me faire échouer, on va tous échouer. Moi, je vous entraîne pas. Est-ce que ça marche?
Mais là, je pense qu'il a exagéré et qu'il a dépassé des limites. Et je vais te donner deux, trois exemples où il faudra que lui aussi, il y réfléchisse. Le match de Reims, ton joueur le plus moyen à Reims, pour ne pas dire pire que moyen, c'est Rulli, ton gardien de but, qui a été le meilleur joueur de l'OM depuis le début de la saison. Et tu penses que Rulli, un matin, il s'est réveillé, il est soit pour son entraîneur, soit contre son entraîneur. C'est plus compliqué que ça. Et si par exemple on parle, nous aussi dans nos émissions, d'un groupe de joueurs qui forment une équipe et une équipe de football, mais dans l'équipe de football de l'OM et dans l'effectif de l'OM aujourd'hui, il y a des secteurs qui sont bons, il y a des secteurs qui sont pas mal, et il y a des secteurs qui sont moyens. Les arrières centraux de l'OM, ils doivent devenir très bon ce soir contre Toulouse, parce que De Zerbi, il a pété un boulon. Mais les trois arrières centraux de l'OM, ils sont moyens. Et heureusement que Rulli, depuis le début de la saison, masque beaucoup de choses. Ouais. Et je vais même te dire, même mieux, peut-être c'est sévère, mais excusez-moi, je le pense. Si Rulli joue toute la saison comme il a joué à Reims, ce soir, on joue la 12e ou la 13e place.
Okay. Ouais, mais justement, le coach,
c'est dire si le niveau n'est pas incroyable de l'OM.
C'est justement le coach qui est pas là pour transcender et des joueurs moyens, les faire franchir un petit palier et qu'ils soient un petit peu meilleurs en tous les cas.
Mais attends, excuse-moi, par exemple, tiens, domicile. Qui a justement cette anomalie qui fait que tu prends plus de points à l'extérieur qu'à domicile. Tu démarres tes matchs contre Nantes et contre, je me rappelle plus qui a fait, ou Lens, avec une seule pointe qui est le seul attaquant de l'OM. Tes deux autres joueurs offensifs, ce sont des numéros 6 ou 8, à l'exemple de Rabiot, qui jouent en numéro 10. Eh ben, pourquoi pas? C'est pas interdit par le règlement. Mais ne soyons pas surpris si des fois ça marche et si des fois ça marche pas.
Vaut mieux être en roue libre qu'en roue libre, alors.
Bravo. J'ai écouté Lionel Charbonnier dans l'after, là, cette semaine dire, peut-être que l'un des problèmes des joueurs marseillais aujourd'hui, c'est d'avoir été un peu déresponsabilisé. Parce que l'attitude des dirigeants tout au long de la saison, chaque fois qu'il y avait une défaite, c'était c'est à cause de l'arbitre, de dénoncer l'arbitrage, de dire on est les mal aimé du football français, et que du coup les joueurs se sont dit bon ben voilà, c'est pas notre
faute. On a une excuse tout trouvée, c'est pas notre niveau.
On parle de deux herbiers qui a exagéré des conneries, on en fait tout. Je pense qu'effectivement sa passion a fait qu'il a exagéré, mais quand Benassia, quand Longoria pète un boulon aussi, ce sont eux aussi des passionnés, mais qui à un certain moment de la saison ont un petit peu dépassé les limites. Et ça, c'est la différence entre un club compliqué dans une région compliquée comme l'Olympique de Marseille, à Marseille, dans cette région. Et là, tu peux regarder pas mal de choses. Il y a des choses qui sont différentes à Marseille, au Stade Vélodrome et ailleurs.
Philippe nous appelle au 32-16, supporter de l'OM. Bonjour Philippe.
Oui, salut à tous.
Tu seras au Vélodrome ce soir, Philippe?
Non, je ne suis pas au Vélodrome, je suis à Brive.
Ah oui, ça fait un peu loin. Le Vélodrome va-t-il se retourner contre ses joueurs? C'est notre débat.
Non, je ne pense pas. Je ne pense pas, comme l'a très bien dit Roland, je pense que le public marseillais connaît trop bien le foot pour leur mettre trop de pression ce soir. Je pense qu'il va y avoir une grosse ambiance, par contre, parce qu'on a l'occasion de repasser déjà deuxième. Et je pense que le public sait que qu'il faut mettre une grosse ambiance ce soir. Ce match il est d'autant plus important même si c'est Toulouse. Par contre si ça perd ce soir,
je pense que ça
peut souffler. Alors ouais. Après je pense que ça va souffler, mais après il restera encore des matchs pour se qualifier en Ligue des Champions, donc je pense que ça va pas être la mutinerie comme ça a pu être évoqué cette semaine ou quoi, mais par contre si ça gagne pas ce soir, je pense que ça peut souffler fort quand même quoi, pour au moins montrer le mécontentement quoi.
Oui, et puis l'avantage en tout cas c'est que Monaco, Nice, Lille, ils ont tous perdu, donc ça laisse une opportunité magnifique pour l'Olympique de Marseille, match à 20h45 ce soir face à Toulouse. Évidemment, ce sera à suivre en direct en intégralité sur RMC. Merci beaucoup Roland d'avoir été avec nous.
Pas de quoi. Merci. Donc je vais regarder ce match avec beaucoup d'attention et attendre rapidement le premier ballon récupéré par Rouli et l'ouverture du score. Donc évidemment, ce sont des choses qui sont très importantes dans un match. Mais n'oublions pas qu'après ce match-là, il y en a encore 6 de matchs.
Ok, et notamment ce Monaco-Marseille lors de la prochaine journée. Allez, on se retrouve dans quelques instants pour la suite des Grandes Gueules du Sport. Nous allons remonter le temps et vous parler du Tour des Flandres avec un Français qui gagne. Rendez-vous compte, c'était il y a longtemps. A tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les Grandes Gueules du Sport.
Jean-Christophe Drouet.
11h30 toujours avec Christophe Cessieux, Fred Weiss, Fred Le Canut, David Douillet. Ce matin, nous sommes ensemble jusqu'à midi. Il y aura le débat caché dans 10 minutes. Vraiment, restez bien avec nous parce que c'est un sujet majeur et une réaction qui a eu lieu hier. Et j'aimerais évidemment en faire part à BGG. Elles ne savent rien pour l'instant. Mais tout de suite, on va remonter le temps.
Quel moment de bonheur pour Jackie Durand et pour toute son équipe aussi d'ailleurs. Jackie Durand, voilà, vainqueur du Tour des Flandres 92, une course fantastique pour lui. 220 km d'échappée, une arrivée solitaire, un exploit dont il faudra bien se rappeler tout au long de la saison. Jackie Durand remporte le Tour des Flandres.
Tout au long de la saison, mais aussi 33 ans plus tard. C'était le 5 avril 1992. 33 ans donc de cela, un Français inscrivait son nom au palmarès du Tour des Flandres. Une performance magistrale signée donc, vous l'avez entendu, Jackie Durand, dans cette course pas comme les autres, qui fait la fierté des Flamands, Christophe.
Oui, qu'il pleuve, qu'il vente ou que le soleil brille timidement, qu'importe les conditions, comme tous les ans depuis 1913, toutes les Flandres seront aujourd'hui de sortie. 1 million de personnes est attendu sur le bord des routes, les deux mains bien occupées, l'une pour porter pinte et cornet de frites, l'autre pour tenir le drapeau jaune frappé du lion noir. Bienvenue, vous êtes sur le Ronde van Vlaanderen.
On a l'odeur des premiers pavés, on a l'odeur évidemment des fritures qu'il y a tout autour. On sent, même si on ne la voit pas, on sent la bière qui coule à flot à côté. Et vous y êtes au Tour des Flandres.
Dans la voix du garçon que vous venez d'entendre, on sent tout l'amour qu'il porte à cette course. Et pour cause, Jackie Durand est donc l'un des 3 seuls Français de l'histoire, avec Bobet et Forestier, à avoir réussi à dompter le Ronde. C'était il y a 33 ans de cela. Pourtant, ce 5 avril 1992, au départ de Saint-Nicolas, personne n'a misé un copec, ni même un franc belge, sur la tête du jeune coureur français. En 4 ans chez les pros, il n'a jusque-là remporté qu'une seule course, le Grand Prix d'Isberg l'année précédente. Du coup, lorsqu'après 40 km, Durand et 3 autres grands malades décident de se faire la belle, personne ne s'affole, il reste 220 km à parcourir. On aura bien le temps de les rattraper plus tard. Et l'échappée prend le large, 5 minutes, puis 10, 15, l'avance va même monter jusqu'à 20 minutes avant que le Belge Van Hooydonk, chouchou des supporters flamands, ne comprenne l'urgence et parte en chasse-patate. Mais il est déjà trop tard, car devant Jackie, à la soquette légère, au moment d'aborder le vieux Coirmont.
Je me souviens encore, comme d'aujourd'hui, j'en ai des frissons, mais c'est le bruit qu'il y a. Et là, même si j'ai mal aux jambes, je sens aucune douleur, alors que l'année d'avant, dans la même portion, je devais être autour de la 150e place dans le peloton et je souffrais le martyr. Et là, je sens rien.
Quelques kilomètres plus loin, alors que seul Wegmüller l'accompagne encore, Durand décide de tenter l'aventure en saut.
Au pied du Bosberg, qui était donc la dernière ascension du jour, je me suis dit, de toute façon, qu'est-ce que je fais? Donc j'ai attaqué dans le Bosberg, je me suis retrouvé au sommet du Bosberg avec une dizaine de secondes d'avance. Puis en haut, bah après c'est parti pour un contre-la-montre individuel.
Une attaque dont les téléspectateurs seront privés. Et oui, le réalisateur belge qui ne jure que par Van Hooydonk n'a pas jugé bon de détacher une moto sur l'échappée. André Garcia et Bernard Tenet, les commentateurs de France 3, ne découvrent donc la situation de course qu'à quelques kilomètres de l'arrivée.
On retrouve les échappés qui ne sont plus qu'un avec Thomas Beckmüller qui a été lâché par Jackie Durand. Alors ça, ce serait quelque chose de fantastique pour nous.
Et oui, et oui.
Un Français qui va peut-être s'imposer. Quelle fantastique course!
La surprise est totale. Dudu, seul en tête, fonce vers l'arrivée lorsqu'une voiture se porte à sa hauteur.
5 km de l'arrivée. Je vois le véhicule de direction de course avec un certain Eddy Merckx qui vient me voir et me dit « Petit, tu vas gagner le ronde. » Et là, bah, c'est Dieu, hein, c'est Dieu qui me parle. Et là, ça m'a décuplé mes forces et j'ai dit « Bon, maintenant, je vais y aller chercher cette victoire. »
Et rien, ni personne ne pourra empêcher le Mayennais de réaliser un peu plus loin le rêve d'une carrière, tout en brisant les rêves des supporters flamands.
Ma surprise ce jour-là, c'est qu'il n'y avait pratiquement aucune ambiance, puisque tous les spectateurs présents ne connaissaient pas le vainqueur du Tour des Flandres. Ils étaient vraiment ébahis et ne comprenaient pas, ils espéraient toujours le retour de la part des favoris.
Jackie Durand remporte le Tour des Flandres.
Et j'ai dit, mais ça y est, je l'ai fait, quoi. C'est un truc de fou, quoi. Maintenant, quoi qu'il arrive, j'aurai réussi ma carrière dans le vélo.
Et la méthode à Durand, l'homme qui ne supportait pas de courir en peloton, portera ses fruits en bien d'autres occasions. 3 victoires d'étape dans le Tour, 2 titres de champion de France et j'en passe. Mais ce dont il reste le plus fier, c'est d'avoir dompté les Flandres et de rester à ce jour, et sans doute pour quelques années encore, le dernier coureur français à avoir coupé le sifflet aux supporters flamands. Et ça, c'est pas facile.
Merci Christophe Cessieudon. Ça, c'est pas facile. On pense à Valentin Madouas qui avait terminé sur le podium, troisième en 2022, mais une victoire française.
Chabanel aussi,
évidemment,
qui aurait pu le remporter, qui était l'équipier de Jérôme Pinault.
Julien Alaphilippe avait le caractère et le profil pour remporter ce genre de course. Mais maintenant, il va falloir peut-être attendre. En tout cas, merveilleuse histoire de Jackie Durand qui, on le sait, hein, a fait, tu le disais, sa gloire, sa légende dans ses échappées au long cours, durant peut-être même parfois le kilomètre zéro. Parfois ça souriait, parfois beaucoup moins, mais c'est vrai qu'on l'a connu comme ça, un fantastique coureur. On va retrouver sur les routes du Tour des Flandres justement Kevin Morand, parce qu'il y a quelques instants il y a une petite embrouille avec les UAE. Est-ce que tu peux nous raconter ça?
Oui, en fait, c'était le moment de faire une petite pause pour satisfaire des besoins naturels pour certains coureurs. Et c'est à ce moment-là qu'Arkea BNB, la formation française, a voulu partir en contre-attaque, puisqu'il y a un groupe de 8 coureurs à l'avant qui dispose de 3 minutes 30 d'avance. Et donc, c'est les coureurs UAE, les coéquipiers de Tadej Pogacar, qui sont venus un peu les rappeler à l'ordre pour leur dire que c'est pas à ce moment-là qu'on devait partir, évidemment, en chasse des échappés matinaux. Donc, où il figure 8 coureurs, pas de Français dans cette échappée, notamment Marco Haller, le Suisse, également deux Néerlandais et deux Belges. Et il y a deux coureurs en contre-attaque également qui sont à 1 minute 25 derrière eux. Mais donc 3 minutes 32 d'avance pour l'échapper sur le groupe, sur le peloton. À 105 km d'arrivée.
Merci beaucoup Kevin Morand. Christophe, ça fait de nombreuses années que l'on est ensemble, que tu fais des C'était mieux avant, des GG remonte le temps. Et souvent, tu nous parles de ces courses historiques. On parlait de Paris-Roubaix, tu nous as fait Guédon. On parle du Tour des Flandres, tu nous fais Jackie Durand. On est nostalgique. On n'est pas bon. On se rappelle que des victoires d'il y a 50 ans.
Oui, mais c'est un peu le problème avec le cyclisme français. Cette année, on va fêter quand même les 40 ans sans victoire française dans le Tour de France. Hein, Bernard Hinault, dernier vainqueur, 1985. Paris-Roubaix, la dernière victoire française, c'est 1997. Le Tour des Flandres, il y a que 3 qui l'ont gagné. Donc, on est un grand pays de vélo, mais on n'est plus un grand pays de vainqueurs. C'est un peu le souci. Alors, il y a eu
on a eu un championnat du monde.
Julien mais Julien a gagné 2 titres de champion du monde, mais il y a eu des victoires aussi dans Milan-San Remo, mais là les classiques flandriennes, ça fait des siècles qu'on n'a pas mis au fond, quoi. Ça commence à devenir un peu lassant à force. Alors évidemment, c'est pas cette année, c'est pas en ce moment avec ces super coureurs, ces super héros que sont Pogacar, Van Der Poel et quelques autres que tu vas pouvoir te mêler à la bagarre. Mais bon,
mais justement, quand tu vois
bien, moi, de mon vivant, voir quand même un Français vainqueur du Tour des Flandres.
Je lance un appel à tous les coureurs français. Il faut se dépêcher, hein, parce que Christophe, dans 2 semaines, il a 60 ans, les copains. Oui, Fred Le Canu.
Non, j'écoute avec beaucoup d'attention ce que tu dis, parce que tu y mets, Christophe, beaucoup d'émotion. Moi, en 92, j'ai pas beaucoup de souvenirs de cette course. Je me rappelle surtout de la médaille de bronze de David Douillet aux Jeux Olympiques. Tu vois, c'est ma course.
Voilà.
Mais ce que, justement, donc, je me retire de l'émotion pour revenir sur la technicité et le profil du coureur. Et peut-être ce qui manque aujourd'hui à certains coureurs, c'est le côté, tu vois, excellence. Cette capacité de partir tout seul, d'être un peu sans calcul, un peu, pardonne-moi l'expression, je suis peut-être hors sujet, mais un peu en mode suicide, quoi. Il y va, advienne que pourra, d'aller au bout. Et toi, d'oublier un peu les calculs, d'oublier cette dimension-là. Et si je te faisais un parallèle
Le problème, c'est que le vélo a tellement changé, tu peux,
bah oui,
peux
c'est, plus faire comme ça. Est-ce que ce profil-là peut exister encore? Tu vois, je te fais un peu provoque, je sais qu'on regarde des sports de combat aussi sur RMC Sport, mais ce côté un peu, tu vois, Saint-Denis qui part à la bagarre comme ça, sans forcément un plan de vol, et qui va aller avec tout son cœur et son âme. Est-ce qu'aujourd'hui, en cyclisme, on peut encore avoir des profils
tu peux sur des étapes du Tour de France? C'est encore possible. C'est très rare, mais c'est encore possible. Ouais.
Avec les oreillettes, c'est compliqué.
Mais voilà, c'est ça le problème aujourd'hui.
Mais
c'est
sur ce
les
genre
GPS,
d'étapes,
les oreillettes,
c'est pas possible.
Les capteurs de puissance, ils sont hyper connectés. Et tu, là, en 92, les mecs, ils ont 20 minutes d'avance avant que derrière, on se dise, mais il va peut-être falloir
prendre. Tu te rends compte ce que tu dis dans ton rétro? Tu dis, le journaliste, il découvre. Le gars est devant, donc ça veut dire que même le journaliste, il est pas au courant.
Mais
aujourd'hui,
non.
Ça semble fou, tu vois,
oui,
tout ça a changé. Ce que je veux dire, c'est Jackie Durand, c'était il y a une trentaine d'années. Est-ce qu'aujourd'hui, ce mode-là, le Durand Style, est-ce qu'il peut encore exister?
Je pense que il y a des mecs qui peuvent tenter d'échapper, des échappés, mais je pense pas qu'ils puissent aller
avoir
au bout.
Une carrière là-dessus.
Et puis
Fred, là, justement, là, tu vois, sur le Tour des Flandres, il y a un groupe qui a 3-40 minutes d'avance sur le peloton. On vient de voir, je suis en même temps à la télé, il y a Van Der Poel et Pogacar, ils sont en train de discuter entre eux, tu vois, ils sont même pas, ça les émeut même pas, tu vois, parce qu'ils sont au courant. Ils savent ce qu'ils peuvent emmener le peloton, rattraper et faire tout ce qu'ils doivent faire dans les 50 derniers kilomètres, comme le disait tout à l'heure notre ami. Donc voilà, il n'y a pas de jeu, quoi.
Ok, et puis le problème aussi, c'est que ce genre de coureur suicidaire, pour reprendre ton expression, il y en a un. Mais c'est le meilleur, c'est Pogacar, qui peut attaquer à 100 km de l'arrivée lors des championnats du monde.
Faire, ouais.
Exactement, donc c'est très compliqué pour nos Français. En tout cas, ce qui est bien quand même, Christophe, c'est que malgré tout, même s'il n'y a plus de Français qui gagnent, on s'intéresse quand même à ces courses mythiques parce qu'il y a des duels absolument incroyables
C'est comme le tennis, c'est des sports, ça fait partie des sports majeurs qui n'ont pas besoin que les Français brillent. Et c'est heureusement que le vélo a atteint ce niveau qui fait qu'aujourd'hui on se passionne pour un Slovène et un Néerlandais et malheureusement on n'a pas de Français à se mettre sous la dent.
Allez, il est 11h41, on va suivre le Tour des Flandres tout au long de la journée évidemment sur RMC. On se retrouve dans quelques instants pour le débat caché. Alors là, je vous le dis, mes GG, ça va forcément vous faire réagir en bien, en mal, peut-être un peu plus en mal qu'en bien, mais ça va vous faire réagir. À tout de suite sur RMC pour le débat caché.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
11h45 de retour dans les grandes gueules du sport avec David Douillet, Christophe Cessieux, Fred Le Canu, Fred Weiss. On est ensemble jusqu'à midi, donc encore durant une bonne dizaine de minutes. Sachez qu'à partir de midi, les Paris RMC, la Dream Team sera là pour vous parler notamment de la Ligue 1 avec ce Marseille-Toulouse ce soir. Il sera aussi question de Paris Saint-Germain Aston Villa, ça c'est mercredi. D'ailleurs, il y a des places à gagner sur RMC, donc il faut absolument nous écouter avec l'alerte qui peut tomber à tout moment. Il sera question du Tour des Flandres. Bref, beaucoup de sujets abordés et beaucoup de cotes à vous donner. Mais tout de suite, mes petites GG, enfin mes grandes GG, enfin mes gros GG.
Mes GG dodus.
Mes petites GG dodus.
Mouilleux.
Oh oui, ça doit être mouilleux là quand on touche un petit peu. Ça doit être
confortable.
Sympa, ça. C'est l'heure du débat caché.
Ne leur faites pas confiance, ils vous tendent un piège. Ce sont des bandits de grand chemin.
Alors, mes dodus ne savent rien et pourtant, elles vont devoir débattre sur un sujet d'actualité, sur un sujet qui provoque soit du bien-être, soit de l'urticaire, soit de l'émotion, soit de la tristesse, mais quelque chose en vous. Le débat caché du jour, c'est ça.
Sider qui change, qui va sur le coup droit, qui lâche le coup droit, c'est gagné ! C'est gagné ! Yannick Sider qui s'allonge sur le dos, c'est fini ! Oh là là ! Une leçon tactique, la balle de match résume tout. Il a maîtrisé de A à Z son tennis. Troisième titre majeur pour Yannick Sinner.
Oui, mais depuis, il joue plus parce que la saison sur terre battue commence aujourd'hui sans lui, le numéro 1 mondial, donc Yannick Sinner, qui purge une suspension de 3 mois pour dopage. Eh bien, sachez qu'il s'est exprimé pour la première fois depuis la décision de l'Agence mondiale antidopage, une suspension qui prendra fin dans 1 mois. Alors, l'Italien aurait pu faire profil bas pour cette première interview télévisée. Canini, c'était hier sur Sky Sport.
La suspension de 3 mois.
Nous avons accepté rapidement la suspension de 3 mois, même si je n'étais pas vraiment d'accord. Ce que je vis est un peu injuste, mais si on regarde les choses, cela aurait pu être bien pire. Cela aurait pu être encore plus injuste. Je suis innocent.
Voilà, cette décision est un peu injuste. Notre question, sa déclaration est-elle déplacée ? Oui ou non ? Sachant que tout le monde du tennis, évidemment, criait déjà au scandale parce qu'il n'y avait que 3 mois de suspension. Déplacé, pas déplacé. Fred Le Canu.
Est-ce qu'elle est déplacée, ça ?
Oui.
Non ?
Non, pas déplacé. Fred Weiss.
Oui.
Oui. David Douillet.
Oui.
Christophe Cessieux.
Oui.
Ok, je vais aller voir le nom, hein. Bah, comme ça vous allez pouvoir vous le faire dans la foulée. Fred Le Canu.
Elle n'est pas déplacée parce que il se sent victime de quelque chose, c'est-à-dire qu'on a retrouvé un produit dans son sang. Il se sent donc forcément innocent. Là où par contre il se trompe, c'est que dans la règle, on doit être responsable de son sang, de ce qu'il y a dedans, même si ça a été fait par quelqu'un d'extérieur. Et c'est là où il se trompe. Donc il crie à l'injustice parce que lui, il sent que c'est injuste parce qu'il n'y est pour rien de son fait à lui. En revanche, la règle est très stricte. Et là où c'est complètement injuste, et c'est là où il a raison, c'est que le traitement sur les athlètes par rapport à ça est d'une injustice absolument incroyable, puisque certains prennent beaucoup, surtout ceux qui sont les plus faibles et qui ne peuvent pas se défendre économiquement.
Donc pas lui.
Donc oui, c'est injuste parce qu'il aurait mérité beaucoup plus, ou tout du moins, il aurait mérité de ne pas prendre cet axe-là, de dire que c'est pas de sa faute. Tu sais, le dopage, c'est un vrai sujet compliqué, parce qu'on dit toujours c'est bien ou c'est mal. Or, c'est plus compliqué que ça. Dumbledore, tu sais, a dit: la vie, c'est pas le bien contre le mal, c'est le bien contre la facilité. Et quand t'es dans le dur, si tu te dopes pour que ça soit plus facile, c'est très mal. Lui, il sent que c'est injuste, c'est pas lui qui l'a fait. Mais par contre, il est responsable, il est coupable.
Ok, qui veut rebondir?
Et c'est pour ça que c'est déplacé, parce que tu fais profil bas dans ce cas-là. Franchement, il s'en sort hyper bien. Il aurait pu être sanctionné beaucoup plus durement. Il y a des gens qui, comme lui, se sentent innocents et ont pris cher. Franchement, arrête de faire Calimero. Tu fais profil bas comme il l'avait fait jusqu'à présent et t'attends que ça passe. Alors évidemment, qu'il doit être devant sa télé ou sur son cours d'entraînement, parce qu'il n'a pas le droit en plus de s'entraîner dans un club officiel, quoi. Il peut s'entraîner sur des cours privés, donc il doit trouver le temps long, mais il s'est fait choper par la patrouille, qu'il soit dopé sciemment ou non, il s'est fait choper par la patrouille.
On rappelle que c'est son kiné qui lui a administré une pommade,
en tout cas, c'est là qu'il lui aurait. On ne saura jamais exactement ce qui s'est passé.
Non plus, l'histoire.
Okay. Mais, voilà, justement, avant de vous faire réagir, je disais, dans le monde du tennis, cette sanction de 3 mois a un peu fait criser. Écoutez Lucas Pouille, par exemple, qui répondait à nos micros.
Moi, ce que je trouve, c'est ce que je trouve très bizarre, c'est le accord trouvé, en fait. Ouais. À quel moment? Encore une fois, j'ai toujours dit ce que je pensais. Je ne pense pas, j'espère ne pas me tromper, que Sinner se soit dopé intentionnellement. Et ça, en connaissant la personne, en le voyant depuis des années, je ne pense pas. Après, aujourd'hui, on est responsable de tout ce qu'on prend, et de tout ce qu'on nous donne. Donc, à partir du moment où, parce que dans ce cas, c'est trop facile, en fait, le tricheur pourra toujours dire maintenant, mais c'est pas moi, c'est mon kiné, c'est pas moi, c'est mon médecin, c'est pas moi, c'est mon entraîneur, c'est pas moi, c'est ceci.
Oui, et puis dans cet accord trouvé, ce que disait d'ailleurs Sinner dans cette interview, il dit, on a vite signé l'accord parce qu'on s'est dit qu'il n'était pas trop mal. 3 mois, en plus, il ratait rien, hein, il ratait quelques petits tournois, il était de retour pour Rome, tout va bien, Roland Garros et tout ça.
Les deux gros tournois américains.
C'était une suspension sur mesure, quoi, vraiment bien adaptée.
Moi, je pense que Sinner est fou. Je pense qu'il est complètement fou, parce qu'effectivement, il explique lui-même qu'il a, comme tu le disais, qu'il a conclu un accord parce que ça l'arrangeait bien. Fred l'a dit tout à l'heure, il y a des sportifs qui prennent beaucoup plus sous prétexte qu'ils sont moins forts au tennis ou dans d'autres sports. Il y a 2 poids 2 mesures, ça gronde de tous les côtés dans le tennis en disant c'est scandaleux qu'il ait pris que ça et que ça soit une suspension sur mesure. Et lui, il arrive en disant Ouais, mais non, quand même, c'est abusé. Enfin, moi, je trouve ça. Mais ce garçon est complètement fou. Tu fais profil bas, tu fais ta suspension, tu reviens et tout le monde aura oublié parce qu'en plus, tu auras fait les efforts. Mais non, tu remues le couteau dans la plaie, t'énerves tout le monde encore un petit peu plus et en plus, tu cries à la victimisation. Non, ce garçon est fou.
Ok, David Douillet.
Ouais, moi, je trouve ça pathétique. Qu'il soit coupable ou pas coupable, le résultat, il est là, quoi. Ce qui me dérange le plus, c'est que il est encore là-dessus. Et ça, c'est inquiétant pour lui, hein, parce qu'il vit dans le passé, le garçon. Il est encore dans ce truc-là, alors que la logique voudrait qu'il se projette et qu'il soit dans l'instant présent du moment. C'est derrière lui, ça doit rester derrière lui, alors que c'est pas derrière lui dans sa tête. Et là, il a tous les mauvais ingrédients pour repartir sur quelque chose de positif. Que il puisse dire attention les gars, soyez vigilants parce que moi j'ai été un peu léger, parce que c'est ça la vérité, c'est ce qu'il dit en tout cas, j'ai été léger, je me suis fait masser avec un truc et voilà, ça s'est retrouvé dans mon sang. Faites gaffe à tout ce qu'on vous propose comme cachet, vitamine, peu importe, massage, etc., etc. Soyez pro, je l'ai pas été moi. Amende honorable. Bon, voilà, ok, et on avance. Maintenant, il est encore là-dessus, en continuant à crier une espèce d'injustice. Je trouve ça petit de sa part et réducteur, et puis pas respectueux des autres, effectivement, au regard de ce que certains ont pu avoir comme sanction. C'est dommage pour lui.
Fred ?
Ouais, ce qui est surprenant, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'il n'a pas compris, là où je rejoins David, c'est qu'à un moment donné, l'athlète de haut niveau, le champion, doit être responsable du contenu de ce qu'il y a dans son sang, ses urines, donc de savoir ce qu'il y a comme produit dans son corps. Le texte, c'est ça. Donc aujourd'hui, exactement, si on commence à faire des accords en disant oui mais, tu sais, ça c'est la fameuse phrase aujourd'hui qui commence tout commence par oui mais. Oui mais lui c'est machin. Oui mais faut savoir par exemple, tu vois, t'as le profil Adams, tu sais, qui suit les athlètes de haut niveau. Si tu déroges au système Adams, tu es quand même sorti d'une compétition sans avoir été positif. C'est que tu n'as pas répondu aux consignes de signalement. Donc en fait, on est dans une lutte. Voilà, le no-show. Ça veut dire qu'aujourd'hui, moi j'ai envie de te dire, le dopage c'est quand même un sujet incroyable parce que tous ceux qui se retrouvent dans une situation soit de no-show, ce qui est réel, ou soit comme on le dit, c'est pas moi, c'est quelqu'un qui m'a mis. En fait, il y a personne qui est dopé intentionnellement. C'est quand même le seul univers où c'est jamais de la faute de la personne qui se fait choper. C'est toujours la faute de l'autre. Soit il a pas répondu au no-show. C'est quand même une lutte l'antidopage est la lutte la plus incroyablement difficile du monde puisque c'est jamais la personne qui veut le faire. C'est toujours soit j'ai pas répondu aux consignes administratives, c'est pas de ma faute, je savais pas, je me suis pas levé, ou alors c'est mais on me l'a mis dans mon sang, c'est la faute du kiné et 3 mois c'est quand même injuste parce que moi j'ai rien fait. C'est ouais, quand même chercher la chercher l'aiguille.
Donc,
hein.
Donc son discours, on peut
pas chercher pas chercher l'aiguille discours. Dans la botte deux fois, hein, c'est ce que je voulais dire.
Donc on peut pas écouter ce discours, c'est impossible. Pour moi, c'est scandaleux d'avoir ce discours justement parce que tu dois être responsable de ce que tu fais, tu dois l'assumer.
Ce qu'on pourrait rétorquer, alors là c'est vu de ma fenêtre et j'ai pas été un sportif de haut niveau comme vous, c'est si imaginons c'est vrai.
Ah oui,
Sinner. C'est-à-dire que c'est son kiné, il s'est fait une coupure, il l'a massé, boum, bah voilà. C'est quand même incroyable pour un sportif, la vigilance. C'est-à-dire que c'est ton masseur, tu sors d'un tournoi, le mec te masse, mais tu dis attends, monte-moi, regarde si j'ai pas une coupure, regarde si. Ça doit être insupportable,
mais
la vie.
C'est comme ton hygiène de vie, c'est comme. En fait, être sportif, c'est pas facile. Ouais. Il faut.
Et je vais même te dire.
Tout travail a ses difficultés et ça fait partie de ton job que d'avoir cette vigilance. C'est une composante que tu dois intégrer. Voilà, c'est tout. T'es un pro. T'es professionnel dans ton entraînement, tu dois être professionnel dans tout ce qui se passe autour, ta nutrition, ce que tu bois, ce que tu dors, etc., etc. Et le fait d'avoir manqué de cette vigilance-là, voilà ce que ça amène. Si ce n'est pas intentionnel. Donc, ça fait partie du job, il faut l'intégrer, c'est comme ça, c'est ce qu'il devrait dire, en fait.
Mais quand tu vois Isa Horatibus, qui par contamination également, elle a embrassé, et ça a été avéré, ça a été prouvé, elle a embrassé son mari, et donc en l'embrassant, elle a eu un taux intensifié minimal, vous avez compris.
C'est très compliqué, et là aujourd'hui, où je te pose une question, tiens, polémique, puisque tu as fait un débat caché, on va aller au bout du truc. Est-ce que les produits de tous les jours, est-ce qu'il n'y a pas des produits aujourd'hui qui sont dopés? Est-ce qu'aujourd'hui, dans l'industrie, il n'y a pas des choses qui sont boostées par l'industrie et qui augmentent peut-être de manière artificielle les compétences de certains produits? Est-ce qu'on peut contrôler jusque ça? Est-ce qu'aujourd'hui, finalement, les athlètes de haut niveau qui sont positifs pour certains sont pas victimes, finalement, d'un dopage industriel de certains produits et qu'on les découvre chez ces athlètes-là parce qu'on les fait pas chez Monsieur Bam tout le monde ces contrôles? Comment tu peux, comment tu peux contrôler tout ce qui vient de l'extérieur? C'est pour ça que l'argument de dire c'est pas de ma faute.
Tous les suppléments alimentaires.
Comment tu peux être sûr aujourd'hui de ce que tu prends?
David.
J'aimerais apporter quelque chose. Je trouve que l'Agence mondiale antidopage devrait quand même être un peu plus, ça devrait être un peu plus fin, parce que il y a des athlètes qui sont positifs, mais leur positivité n'a pas eu d'incidence sur la performance. Et ça, on le prend jamais en compte, ou en tout cas une incidence plus que significative. Il y a plein de gens qui sont condamnés parce que justement une pommade, un machin, un bisou, un truc, etc., etc. Et au bout du compte, oui, d'accord, le truc il est positif, mais on sait que ça n'a eu aucun effet de quoi que ce soit sur la performance. Je pense que on devrait rentrer dans cette nuance-là, parce que ça permettrait de juger un peu mieux ce type de situation.
Eh bien, sachez,
pas sûr que Sinner avec sa pommade soit plus performant qu'un Sinner sans pommade.
Voilà. Sachez qu'on vous prépare une émission spéciale dans quelques semaines avec l'Agence mondiale. On passe sur la pommade, même si j'aimerais bien t'en passer dans le dos comme ça doit être très sympa. Avec l'Agence mondiale antidopage qui viendra répondre à nos questions. Et justement, toutes ces interrogations seront peut-être soulevées avec directement le directeur de la médecine de l'Agence mondiale antidopage. Il est français et donc ils ont accepté le principe. Donc ils viendront dans les grandes gueules du sport pour justement répondre à toutes ces questions, et on s'arrangera pour que Christophe Cessieux ne soit pas dans le jeu. Évidemment,
non, je suis là. Si je suis pas là,
vous savez quoi, les copains, écoutez ce petit bruit là. C'est pour vous les auditeurs. C'est le moment pour vivre l'expérience RMC et gagner vos places pour Paris Saint-Germain Aston Villa. C'est mercredi prochain au Parc des Princes à 21h. Vous avez 5 minutes à partir de maintenant pour envoyer PSG au 732-16. PSG au 732-16. L'expérience RMC, il n'y a que sur RMC qu'on vous fait vivre ça. L'avant-match, le match là-bas avec la personne de votre choix. Et puis ensuite, évidemment, vous revenez pour l'after. Allez-y, bonne chance à tous. Merci beaucoup les GG, les deux Fred, David,
merci.
Christophe. Cette émission est déjà disponible, évidemment, en podcast. Passez un très très bon dimanche, merci les amis. Tous, merci à vous, les auditeurs.
Et on va se mettre devant le Tour des Flandres.
Oui, le Tour des Flandres, mais surtout les paris RMC. Tiens, on vous donnera des codes d'ailleurs sur le Tour des Flandres. À là tout de suite.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules du sport.